Frères et sœurs, nous sommes rassemblés ce matin pour accueillir, pour accompagner et pour entourer de toute notre affection, de toute notre prière, de notre foi, de la foi de l'Église, Abel, comme je dis souvent, Abel le juste, comme on le dit dans la première prière eucharistique qu'il prononcera pour la première fois aujourd'hui au cours de cette messe. Et qui va devenir, par l'imposition de mes mains et le don du Saint-Esprit, prêtre de Jésus-Christ pour le service de son Église. Bienvenidos a vosotros que han venido de muy lejos del Ecuador. Sus padres, que saludo con afecto. Sus hermanas de sangre, tres hermanas, un hermano. Hermanas de fe, de las comunidades de Abel, del Camino Neocatecumenal, del Ecuador, como también de Bayonne y de Bordeaux. Aujourd'hui, cher Abel, c'est le Christ qui est au centre de cette célébration. C'est lui qui t'a choisi, c'est lui qui t'a appelé, et c'est lui qui va t'envoyer annoncer l'Évangile aux pauvres. C'est lui dont nous célébrons le mystère pascal, dans la Sainte Eucharistie, que tu pourras célébrer toi-même pour la première fois, in persona Christi, dans la personne même du Christ. C'est lui qui va te configurer à son sacerdoce de grand prêtre par excellence, pour devenir un autre Christ. Et pourtant, en ce samedi où nous faisons mémoire traditionnellement de la Vierge Marie, la mère du Christ prêtre, et par extension la mère de tous les prêtres, Notre-Dame du sacerdoce, Notre-Dame du perpétuel secours, tu as voulu être ordonné sous le signe de la bienheureuse Vierge Marie. Et toute la liturgie porte notre regard vers elle. Tu es l'honneur de notre peuple, Vierge Marie, comme nous l'avons chanté dans le psaume de méditation de cette messe. Car c'est par Marie qu'à la plénitude des temps, Dieu a envoyé son Fils pour racheter le genre humain. Comme nous dit saint Paul, il est né d'une femme. C'est Marie qui est annoncée mystérieusement et prophétiquement dans ce que l'on appelle dans la Genèse le protévangile, c'est-à-dire le premier évangile, la première annonce du salut, qui participera d'une manière unique et singulière à ce grand combat, ainsi exprimé par Dieu lui-même à l'intention du serpent des origines. Je mettrai une hostilité entre sa descendance et ta descendance. Elle, tu la meurtriras au talon, mais elle t'écrasera la tête. Elle participera à la douleur de la rédemption, mais elle sera associée à la victoire du Rédempteur sur toutes les puissances du mal, à commencer par le péché et la mort. C'est à sa prière d'intercession, comme nous l'avons entendu dans l'évangile des noces de Cana, que le Père déclenchera mystérieusement l'heure de Jésus, c'est-à-dire l'heure du salut, l'heure de la rédemption. Ils n'ont pas de vin. Je pense à cet instant à ce bref passage d'évangile que nous trouvons chez saint Luc et qui éclaire d'une certaine manière l'événement d'aujourd'hui. Jésus parle, des foules sont rassemblées autour de lui et sont admiratives devant les paroles de grâce qui sortent de sa bouche. Et du milieu de la foule, une femme élève la voix et elle proclame « Heureuses les entrailles qui t'ont porté et les seins qui t'ont allaité !» Elle ne chante pas la louange du Christ, mais elle fait l'éloge de sa mère, la Vierge Marie. Et moi aujourd'hui, Abel, quand je suis avec tous ceux qui t'entourent, témoin de la manière dont tu réponds de manière disponible à l'appel du Seigneur à le suivre dans le sacerdoce, que tu as exprimé à travers ton « me voici », qui rejoint le « me voici » du Verbe fait chair dans le sein virginal de Marie par l'action de l'Esprit-Saint en entrant dans le monde. Tu n'as voulu ni holocauste ni sacrifice pour le péché, mais tu m'as donné un corps. Et moi j'ai dit « me voici, ô Dieu, je viens faire ta volonté ». En étant témoin de ta disponibilité, moi aussi, je veux élever la voix au milieu de cette assemblée et proclamer, non pas ton éloge, mais l'éloge de ta mère. Heureuse celle qui t'a porté. Heureux les saints qui t'ont allaité. Et je sais combien pour toi, ce lien à ta mère qui devient la mère d'un prêtre, comme la Vierge Marie qui est devenue la mère du grand prêtre qui est Jésus-Christ, cela a un écho dans ton cœur, comme tu en as témoigné souvent. Tu es le 7e d'une famille de 9 enfants. Tu as grandi dans cette famille nombreuse et chrétienne qui, avec la communauté du chemin néocatéchuménal, t'a transmis la foi. Mais il fut un temps de l'adolescence où tu t'es rébellé contre ton histoire et contre Dieu. Ça n'est pas facile, sans doute, de grandir dans une famille si nombreuse. Alors tu as commencé par faire n'importe quoi. Mais tu te souviens du jour précis, c'est un dimanche matin, où tu reviens d'une nuit de fête. Tes parents t'attendent. Tu t'attends à ce qu'ils te fassent la morale, mais non. Il t'accueille avec amour et il témoigne devant toi des merveilles que le Seigneur a fait dans votre famille. Ces signes du Christ ressuscité dans la vie des hommes, le passage d'Évangile qui est sorti lors de ta veillée de prière avec ton recteur pour te préparer à cette célébration de ton ordination, et précisément ces derniers versets du chapitre 20 de Saint Jean qui disent « Jésus, aux yeux de ses disciples, fit bien d'autres signes que ceux qui sont écrits dans ce livre. Mais ceux qui sont écrits le sont pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant, et qu'en son nom, vous ayez la vie. » Et ta maman a ajouté, « Tu sais qu'avec ton père, lorsque nous nous sommes mariés, nous n'étions pas dans l'Église. » Quand nous avons eu 2 enfants, nous avons décidé de ne plus en avoir. Mais grâce à l'Église, à travers le chemin néocatéchuménal qui nous a fait rentrer dans l'Église, nous avons découvert la beauté de la vie et nous nous sommes ouverts. Et c'est à cause de cela que vous êtes nés les 7 suivants. Et elle a ajouté, avant même que nous ayons le désir de t'avoir, Dieu t'a voulu. Heureuse la mère qui t'a porté et les saints qui t'ont allaité. Ce lien très particulier d'un prêtre à sa mère, à ses parents aussi, car comme dit saint Paul, il est né de la femme, il est né sous la loi. Et c'est le Père qui donne la loi, qui donne le sens, qui donne la direction, qui corrige même ses enfants, parce que, comme tu le dis, tu n'es pas un bâtard, mais tu es un enfant de Dieu. Tout cela a été déterminant pour toi-même, mais rappelez-vous que Jésus a répondu quelque chose à cette femme qui s'écriait de milieu de la foule, « Heureuses les entrailles qui t'ont porté et les seins qui t'ont allaité », avec une lueur de tristesse, car il sait que c'est précisément lorsque Marie sera douloureuse au pied de la croix, alors que son fils, dans une souffrance insigne, offrira sa vie pour le salut du genre humain, ce sera précisément sa souffrance que de l'avoir portée dans son sein. Alors il dit « Heureuse plutôt celle qui a entendu la parole de Dieu et qui la met en pratique. Bienaventurada la que escucha la palabra de Dios y ponerla en práctica. Heureux ceux qui font la volonté du Seigneur. » Et m'est avis que c'est l'expérience que tu fais aujourd'hui et que tu as faite, comme tu me le dis dans ta lettre de demande d'ordination. Je cite « Depuis mon ordination diaconale, le Seigneur m'a fait expérimenter une libération profonde et inattendue. J'ai réalisé qu'auparavant j'étais souvent l'esclave de ma propre raison et de mes projets personnels. Cette volonté de tout maîtriser et de suivre mes propres schémas me rendait triste et lourd. Mais une fois ordonné par la grâce du sacrement, le Seigneur m'a rendu libre de ce fardeau. J'ai découvert une joie vraie, une joie qui dure et qui ne dépend pas de mes succès, mais de ma totale dépendance à sa volonté. Ecce venio, ut faciam voluntatem tuam. Voici que je viens pour faire ta volonté. » C'est grand, chers frères et sœurs, le mystère du sacerdoce. Le curé d'Ars se disait, si le prêtre se comprenait, il en mourrait. Non pas de frayeur, mais d'amour. Nul ne saurait s'arroger une telle dignité, comme dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux en parlant des prêtres. Tout à l'heure, j'ai demandé à ton recteur qui t'a présenté pour l'ordination « Scis illum esse dignum » en français. Savez-vous s'il a les aptitudes requises? Et il a attesté devant tous qu'au terme de cette longue formation et de ce long discernement, tu as acquis des aptitudes morales, intellectuelles, spirituelles, pastorales, pour t'habiliter à accomplir les missions que l'Église te confiera au service du salut des âmes. Mais toi, tu sais bien, pour l'avoir éprouvé dans ta chair, maintenant que tu te connais mieux, au terme de ce long temps de formation, que tu es indigne de ce don qui t'est fait, comme je suis indigne, moi qui te parle, du don qui m'a été fait de participer à la plénitude du sacerdoce du Christ. Tout à l'heure, lorsque tu seras prosterné à terre, enveloppé par la prière de l'Église du ciel et de la terre, des saints qui ne sont pas nés mieux que toi sous une meilleure étoile, mais qui se sont devenus saints en se laissant façonner par la grâce du Seigneur. Lorsque tu seras anéanti devant Dieu, abandonné entre ses mains, entrant dans la kénose du Christ, dans un esprit d'humilité et un cœur contrit et repenti, comme tu le diras chaque fois que tu célébreras la messe au moment de l'offertoire, tu pourras te poser cette question qui, je sais, a un écho concret en toi. Pour laquelle de mes misères le Seigneur m'a-t-il choisi et aimé? Et tu te rappelleras cette devise du pape François, « Miserando atque eligendo », choisi parce que pardonné, parce que miséricordié. Et pourtant, malgré ton indignité, malgré ta faiblesse de pécheur, dont tu as parfaitement conscience aujourd'hui, le Seigneur t'a appelé. Il va te donner par l'imposition de mes mains une grâce de l'Esprit-Saint qui va te transformer de l'intérieur, comme je le dirai tout à l'heure dans la prière d'ordination, et je cesserai de chanter à ce moment-là pour en souligner la gravité et l'importance. Seigneur, répands à nouveau, au plus profond de lui-même, l'Esprit de sainteté. Cette grâce va élever ton être au-dessus de son ordre. Elle va te rendre capable d'accomplir des actes qui excèdent les capacités de ton humanité. Tu deviendras l'instrument d'une grâce qui ne peut venir que du Christ, que tu rendras présent à travers les actes de ton ministère. Dans l'évangile des noces de Cana, il me plaît de reconnaître les prêtres, instruments de la grâce, dans ces pauvres serviteurs à qui Jésus dit « Remplissez d'eau les jarres et portez-le au maître du repas. » Et quand ils le portèrent et que le maître du repas eut goûté l'eau changée en vin, ils découvrirent qu'à travers ce geste de verser l'eau, geste très humain à leur portée, par la puissance du Christ, l'eau était devenue un vin meilleur que tous ceux que nous pouvons produire nous-mêmes. Quand tu prononceras les paroles sur un peu de pain et un peu de vin, « Ceci est mon corps, ceci est mon sang », par la puissance du Christ, ce pain deviendra le corps du Christ. Et ce vin deviendra son sang versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Lorsque tu prononceras la parole de l'absolution dans le sacrement de la pénitence et de la réconciliation, « Et moi, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, je te pardonne tous tes péchés par la puissance du Christ. » Le pécheur sera relevé, réconcilié. De mort qu'il était, il reviendra à la vie. Ce caractère sacramentel qui va te configurer au Christ, prêtre, tête et pasteur de son Église, qui sera une empreinte indélébile que rien ne pourra effacer jusque dans l'éternité. Et quand bien même tu célébrerais la messe de manière indigne, quand bien même tu serais cause de scandale, ce qu'à Dieu ne plaise, ce caractère ne sera pas effacé. Et tu demeureras pour l'éternité l'instrument de la grâce du Christ. Rappelle-toi donc que si tu es devenu un autre Christ, tu n'es pas le Christ pour autant, comme dit Jean-Baptiste. Je ne suis pas le Christ. Ton humanité n'est pas comme celle de Jésus en vertu de l'union hypostatique, l'instrument conjoint de sa divinité qui en fait le saint par excellence. Le caractère te consacre, mais il ne fait pas de toi un saint. Ton humanité demeure un instrument séparé. Ton humanité demeure l'humanité d'un homme pécheur qui aura toujours besoin de conversion, de sanctification, de réconciliation avec tes frères. Tu seras engagé dans ce chemin de conversion et comme prêtre, tu tâcheras d'entretenir cet esprit de sainteté, cette grâce sanctifiante qui, avec le caractère sacramentel, t'est communiquée aujourd'hui dans le sacrement de l'ordre du presbytérat. En célébrant la messe tous les jours, en écoutant la parole de Dieu, à travers la prière et l'humble service des frères auxquels tu seras envoyé. Alors, pour conclure, écoute la Vierge Marie, à qui tu veux particulièrement te confier aujourd'hui sous le titre de Notre-Dame du Perpétuel Secours. Et elle te dit, fais tout ce qu'il te dira. La première chose qu'il te dit, c'est cette parole que tu m'as rappelée dans ta lettre de demande d'ordination qui avait surgi dans ta nuit de prière pour te préparer au diaconat. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Tu marcheras devant la face du Seigneur et tu prépareras ses chemins. Et tu m'écris, cette promesse n'est plus seulement un texte biblique, mais une réalité vivante. Je sens que le Seigneur me prépare à marcher devant lui pour ouvrir les cœurs à sa venue. Et il te dit encore, il te dira tous les jours, « Ceci est mon corps, livré pour vous. Ceci est mon sang, versé pour vous. Faites cela en mémoire de moi. » Le cœur de ton sacerdoce, le levier de ta mission et de ta sainteté, ce sera la célébration quotidienne, je dis bien quotidienne, de la Sainte Eucharistie. Faites cela en mémoire de moi. Et enfin, imitamini quod tractatis, comme je te le dirai tout à l'heure, en te remettant le calice et la patène, imite dans ta vie ce que tu fais dans ces rites et conforme ta vie au mystère de la croix du Seigneur. Amen.